Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Avec un invité de marque ce matin, Enki Bilal. Bonjour tout le monde. Le dessinateur Enki Bilal expose ses croquis, ses esquisses et autres travaux au crayon à la galerie parisienne Barbier et Maton. L'exposition qui draine un nombre fou d'admirateurs de Bilal se poursuit jusqu'au 3 novembre. Alors ce sont les crayonnés de Bilal, c'est-à-dire qu'on peut voir le trait du grand dessinateur avant que ne vienne s'ajouter l'encre de Chine, la peinture ou le pastel.
Le réveil culturel. Mardi, Expo.
Bonjour Enki Bilal.
Bonjour.
Alors cette exposition à la galerie Maton jusqu'au 3 novembre, c'est une manière aussi de vous voir, vous, vos dessins in progress, parce qu'il s'agit de crayonner, d'ébauches, d'esquisses, de vos œuvres pour la bande dessinée, mais pas seulement, mais aussi pour vos toiles et vos films. C'est-à-dire tout ce qu'on a l'habitude de cacher, là vous allez l'exposer et le mettre à la disposition du public puisque c'est une exposition vente.
Oui, c'est vraiment le laboratoire du dessin. C'est, je veux dire, tout part du dessin quand on est dans ces domaines-là, les domaines de la création de livres, de films, de peinture, etc., de design. Le dessin est la base de tout. C'est le truc de l'enfance, c'est le truc, le geste qu'on n'apprend pas d'ailleurs, qu'on fait naturellement. On est attiré par l'idée de tracer quelque chose, de prendre sa main maladroitement entre ses petits doigts, essayer de guider, je sais pas, un crayon qu'on sait à peine tenir ou une craie. Moi, j'ai beaucoup dessiné à la craie quand j'étais gamin, dans les rues de Belgrade, sur des trottoirs. Et donc, le dessin, c'est fondamental. Je veux dire, vous allez dans la grotte de Lascaux, nous montre des esquisses. c'est le graphite des gens in progress, c'est extraordinaire. Donc ça, c'est... Pour moi, c'est ça. C'est la genèse de mon travail de créateur. Ça passe par le dessin et ça vient de là. C'est vraiment quelque chose qui est destiné à ne pas être vu, finalement. Un petit croquis comme ça, de 15 cm sur 20, il donnera une toile de 1,50 m sur 2 m, par exemple. Mais il y a toujours cette recherche qui se fait en petit d'abord pour que l'œil fixe, maîtrise la composition, etc. Et effectivement, on retrouve ça à l'origine, au départ, de mes albums de bande dessinée, de mes illustrations, de mes peintures, et y compris de mes travaux pour des films, les miens ou ceux que d'autres font et qui me donnent, ou alors pour des décors et des costumes de ballet, voilà. Pour moi, une exposition comme ça, c'est la deuxième que je fais chez Barbier et Maton, c'est une occasion de rencontrer des gens qui s'intéressent au dessin, parce que c'est tout d'un coup un autre public, c'est pas forcément des lecteurs de bande dessinée, mais c'est des gens qui aiment le dessin, des gens qui viennent des écoles de dessin. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une espèce de lien. Un auteur, un artiste, c'est quelqu'un qui est un peu solitaire. Moi, je le suis particulièrement lorsque je travaille. Et ça, c'est une occasion de s'ouvrir, finalement.
Quand on déambule dans cette exposition, Enki Bilal, Graffiti in Progress, à la galerie Maton, c'est d'ailleurs deux petites galeries dans la même rue, mais séparées, on retrouve, pour ceux qui vous lisent depuis des années, on retrouve vos personnages, on retrouve votre univers de la bande dessinée, mais je ne suis pas arrivé à les dater, comme si votre style, Enki Bilal, est un style qui a traversé le temps sans évoluer avec lui.
Il a évolué, mon style, énormément. Mais il est évident que là, je ne montre pas, d'ailleurs je ne les ai plus, je ne les ai pas. Parce que je ne travaillais pas comme ça à mes débuts, lorsque j'ai travaillé sur les premiers albums de bande dessinée avec Pierre Crestin par exemple, je ne faisais pas des croquis préparatoires. Je travaillais sur la planche, je gommais, je redessinais, je regommais, etc. Donc c'était une autre façon de travailler, qui est une façon un peu classique de la bande dessinée d'avant, d'une certaine façon.
Alors ces dessins qui sont exposés, ils concernent quelle période ?
On va dire les 20 années qui viennent de s'écouler. Donc avec notamment le Sommet du Monstre, qui est un peu un livre, un album qui est sorti en 97, qui m'a amené à cette nouvelle technique. Préparer un dessin, un peu comme un film, je dessine case par case, c'est-à-dire chaque case, est, quand on la voit, on se dit elle est indépendante, c'est quoi, c'est une illustration, je dis oui et non, ça fait partie d'une narration, ça fait partie d'une action, ça fait partie. Moi je sais où ça va, je sais comment le cadrer, je sais comment l'utiliser, et puis je mets le texte, et c'est une façon de se redonner, comment dire, une énergie sur la bande dessinée, parce que je commençais à me manquer d'énergie. J'étais fatigué du côté un peu staccanoviste du dessin, des tracés, des cases, des bulles, machin, etc. Je n'en pouvais plus. Et il a fallu qu'une histoire, une thématique comme l'éclatement de la Yougoslavie avec le sommet du monstre vienne me prendre pour me dire, voilà, ça c'est un sujet que je dois traiter, c'est vital pour moi, c'était violent, hein. Mais il faut trouver aussi un moyen pour que l'écriture soit vivante, soit énergique, et ne pas être figé dans une bande dessinée à l'ancienne, traditionnelle, avec des petites cases, etc. Et c'est là que je me suis dit, je vais travailler case par case, et puis je montrais ça sur mon ordinateur, comme on monte un film. Et donc ça m'a redonné envie de raconter de nouveau, différemment. Et c'est à partir de cette période-là, donc c'est dans ces 20 dernières années.
Avec l'ordinateur, avec l'arrivée de l'ordinateur.
Oui, mais l'ordinateur que pour faire le montage. Je n'ai jamais dessiné quoi que ce soit à l'ordinateur. Tout est fait à la main, tout est fait, etc. Mais je scanne après et je monte, je fais le montage.
De la page.
De la page, comme on monte un film. Et avec la possibilité à un moment de se dire, mais si je mets cette image-là devant plutôt que derrière, et si je la recadre un peu, ça sera mieux. Et elle me dit, oui, c'est mieux, donc je garde. Donc il y a cette souplesse qu'on n'a pas quand on trace ses cases un peu systématiquement. Et donc cette période-là, c'est mon style. Mon style est arrivé à ça, une forme de maturité. Après, les choses changent à la peinture, parce que là, ce qu'on voit, c'est que la partie de base, le dessin de base, celui qui va donner l'impulsion au reste. Et le reste, c'est selon la technique. Pour le tapis là, enfin le tableau qui est là, le geste est différent, la technique est différente. Lorsque je refais une bande dessinée, le geste est plus réticent parce que le format est plus petit. Et puis par exemple, lorsqu'on dessine de manière très précise certaines choses, c'est le poignet qui travaille. Alors que lorsqu'on peint, c'est le bras, c'est le corps. Mais à l'origine, il y a ce petit dessin, ce petit bout de calque ou de papier sali par les doigts, par le graphite, par le crayon tendre. C'est un peu ça. Et puis l'odeur du crayon, moi, je l'ai évidemment. Là, ça fait partie du jeu, quoi. Et le crayon est toujours l'outil de base pour le dessin, pour tous les enfants. Donc l'enfant lui-même, il tient au bout de ses doigts. Maladroitement, il tient une impulsion de son cerveau qui va prolonger. Donc voilà, moi je suis resté un enfant, ou je suis un enfant comme... Ou alors les enfants sont déjà des adultes. Tout ça, ça fait partie du même voyage. Le cerveau transmet à la main, qui transmet sur le papier, ou sur le sol, ou sur un mur, ou le graphite. Le street art, maintenant, c'est pareil. C'est plus crayon, mais c'est une bombe. La bombe qui va balancer la peinture, le street artiste, c'est son cerveau qui donne l'impulsion.
Bilal, pourquoi vous avez décidé justement de nous montrer ces travaux qui étaient destinés à rester chez vous ?
C'est la galerie Barbier Maton qui m'a demandé il y a deux ans, pour la première exposition, m'a dit voilà, ça serait bien de montrer, etc. Et effectivement, j'ai tous ces dessins qui ne sont pas destinés. Alors, ils sont destinés à rester chez moi, mais ils sont dans un tiroir, ils sont éparpillés dans certains endroits. Donc, et vraiment, la rencontre d'il y a deux ans a été très... très forte il y avait plus de 1000 personnes le premier jour de l'inauguration, il y avait une queue qui faisait le tour c'était incroyable. Tous ces gens venaient pour me rencontrer, pour voir ces dessins. On a échangé, on a discuté, c'était passionnant. Voilà, j'ai trouvé ça très fort, comme lorsqu'on sort un album et puis on va rencontrer ses lecteurs, on discute et puis après il y a une dédicace. Tout ça, ce sont des moments qui sont nécessaires, mais on n'en a pas tant que ça. Moi, je fais peu de festivals, je fais pas énormément de salons, etc. Donc, ce sont des moments qui sont des marqueurs de rencontres. Tout d'un coup, moi, je vois aussi ceux qui me lisent, ou ceux qui s'intéressent à mon travail, ou plus généralement ceux qui s'intéressent à l'art et au dessin.
Je vous pose cette question, Enki Bilal, parce que en préface des deux livres qui accompagnent justement Graphite in Progress, le volume 2 sort justement avec l'exposition jusqu'au 3 novembre à la galerie Maton, vous dites que aujourd'hui le crayon passe moins de temps entre les doigts des enfants que certains objets connectés, générateurs de flux d'images paresseuses. C'est-à-dire que vous dites l'addiction à l'ordinateur, le fait qu'on passe par les ordinateurs, on casse ce cheminement que vous venez de décrire, ce cheminement qui va du cerveau au papier, quoi.
La main, par la main. Oui, c'est un constat, c'est pas du tout une amertume, une aigreur ou quoi que ce soit. C'est que je constate simplement, c'est vrai, le cerveau est moins disponible. Les enfants sont attirés par les outils technologiques. Il y a de quoi. Je veux dire, on se rend très bien compte que l'iPhone est une obsession pour un enfant très tôt. Alors que mon obsession, c'est d'avoir un crayon de meilleure qualité et un papier de meilleure qualité. Là, aujourd'hui, les gamins, ils s'en sont à se dire, je veux avoir le nouveau modèle 2, etc.
Donc, oui, vous dites qu'il y a une conséquence sur le cheminement du dessin et de l'art en général.
Je pense que oui, sur le cheminement du dessin, oui. Je pense que le dessin est en régression. La pratique du dessin est en régression, c'est une évidence. Alors, ce qui n'empêche pas qu'il y ait des gens qui ont énormément de talent.
Le dessin par la palette graphique, par exemple.
Oui, mais ça c'est très délicat de la palette graphique, c'est un outil exceptionnel. Moi je vais l'essayer parce que il faut que je sache aussi comment ça fonctionne bien ou mal, comment je vais m'en sortir. Mais ce que je veux dire, c'est que là il y a quelque chose qui manque à la palette graphique, c'est la sensualité, c'est la relation. Quand je parlais du cerveau qui est prolongé par la main et par les doigts, la main qui tient le crayon, le pinceau, etc., et sur le papier ou sur la toile, il y a quelque chose, il y a une sensualité. Là,
c'est la matière qui ramène cette sensualité.
C'est la matière, c'est la, que ce soit la peinture, que ce soit de l'huile, de l'acrylique, de la gouache, c'est l'encre de Chine ou pas, tout ça, ça a une vie. La palette graphique, c'est froid et c'est numérique et c'est virtuel, mais ça produit quand même des choses. Donc, ce qui veut pas dire que l'art est en régression, l'art est en mutation. Il est en mutation, mais je vous garantis que le dessin restera la base. Pour les grands, les vrais artistes, je pense que le dessin restera la base. Je ne vais pas vous citer tous les artistes du XXe siècle parce qu'ils sont disqualifiés puisqu'ils n'ont pas connu le numérique. Parlons des nouveaux qui vont apparaître. Et c'est en train de... La mutation est en cours. Mais en tout cas, il y a la régression de la pratique du dessin, c'est quand même un problème que l'on constate, que l'on voit aussi par la qualité. Par exemple, des illustrations dans les magazines d'aujourd'hui, dans les hebdomadaires, etc., la qualité est sérieusement baissée. Il n'y a plus de véritables créateurs, graphistes, dessinateurs qui ont... de nouveau, alors la photo, le montage photographique, ça oui, on va trouver des trucs formidables, et de nouveaux langages visuels vont naître, des nouvelles technologies, mais le dessin, il va falloir qu'il repasse par la case du crayon, de la main libérée et du cerveau humain.
Non, je vous dis ça, Enki Bilal, parce que comme vous êtes le premier artiste dans le monde du dessin et de la bande dessinée à avoir intégré ce qui aujourd'hui devient de plus en plus proche de nous, c'est-à-dire les robots, les cerveaux connectés. D'ailleurs, il y a quelques dessins qui renvoient à ces technologies et vous êtes arrivé avec cet imaginaire avant qu'il n'advienne en quelque sorte.
Bah ça, c'est une question d'engagement et à la fois intellectuel et prospectif et de thématique. Je choisis ces thématiques parce qu'elles m'intéressent. Le présent m'intéresse parce qu'il est, je le vis, parce que on le subit et qu'il faut le maîtriser. Le futur proche m'intéresse parce que c'est demain et que c'est à construire et c'est à faire. Ce qui s'est passé m'intéresse moins. Ce qui s'est passé, c'est passé. Je le garde dans mon souvenir. Voilà, ça fait partie de mon cheminement. Ça peut enrichir ma réflexion, évidemment, l'expérience, ça sert, mais le regard de devant, prospectif, est pour moi le moteur de ma création. Donc je me pose la question, évidemment, de savoir ce que va devenir la planète, ce que va devenir, pourquoi l'obscurantisme nous guette et nous a guettés, et pourquoi en 97 j'ai écrit Le Sommet du Monstre, et qu'en 2001, on a la réplique du Sommet du Monstre avec les deux tours jumelles de New York qui sont attaquées par des fous terroristes obscurantistes. Je dirais que c'est une façon de... je suis un journaliste dévoyé. Je veux dire, je prends ma liberté là où celle du journaliste s'arrête, parce qu'il est obligé de se dire, voilà, ça, il faut que je vérifie les faits, etc. Il faut que j'étaye et ensuite que je fasse mon compte-rendu. L'artiste, lui, il peut se dire, je vais au-delà. Et j'ose imaginer que ça peut arriver. Quand je défriche visuellement, quand je dessine sur ces thématiques-là, ou quand je me pose ces thématiques-là, je me pose aussi en même temps la question de l'humain. Qu'est-ce qu'on va devenir? Évidemment, je me demande, est-ce qu'on joue pas avec le feu? Ben oui, on joue avec le feu. C'est une évidence. Chacune des inventions de l'homme a toujours produit son côté négatif, son côté sombre. Et le transhumanisme, c'est exactement la même chose. quand la limite va s'arrêter, comment les choses vont virer, est-ce que certains ne vont pas en profiter pour, ou est-ce que simplement on ne va pas aller tellement loin que la machine viendra nous dire « attention, c'est à mon tour de prendre le pouvoir ».
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Et aujourd'hui, par exemple, Enki Bilal, si vous aviez la possibilité technologique de faire exécuter vos dessins tels que vous les imaginez, par un robot, par un membre incorporé à votre corps.
Vous dites, alors donc je vous parlais tout à l'heure du cerveau qui envoie une impulsion à la main qui va faire, ça veut dire que si mon cerveau envoie une impulsion à une main artificielle armée de plusieurs crayons, outils, machin, etc.
C'est exactement ça, vous avez très bien résumé la question.
Voilà, donc j'imagine le dessin, on imagine le dessin tous les deux. Est-ce que j'essaierai, mais je m'assurerai que je puisse retirer cette main artificielle pour retrouver la mienne normale. Mais j'essaierai de... Comme on essaye une expérience, c'est tentant. Je ne me ferai pas trancher la main pour la faire remplacer. J'en suis pas là, mais j'essaierai l'outil de fou que cela représenterait.
Parce que cette exposition, Enki Bilal, on est bien d'accord qu'elle est, c'est votre travail, c'est votre trait, c'est votre dessin, c'est votre imaginaire, mais dans l'épure, la plus totale, hein. Pas de couleur, pas de remise en case de ces dessins. Est-ce que c'est un peu l'adieu au dessin pour artisan que cette exposition?
Je pense que justement, ça relie à cette idée d'artisanat. C'est que ce geste-là, c'est un geste de création. Mais l'artisan, il crée, c'est un créateur aussi. L'artisan, c'est un créateur. Donc, voilà, c'est quelque chose, c'est le moment où le cerveau jette. Voilà, c'est le premier jet du cerveau, c'est le premier jet, on va dire, tangible. Hein, parce que l'idée est abstraite, mais le cerveau envoie quelque chose de virtuel et la main produit ce travail qui est un jet rapide comme ça, mais sur quelque chose de tangible, c'est-à-dire une feuille de papier, un bout de calque, et puis un tracé avec de la matière de la Terre. C'est notre planète qui produit le graphite. Hein. Donc il y a quelque chose d'enraciné dans ce que nous sommes. Et ça, ce geste-là et ce résultat-là, ensuite, il produit la suite. Alors un croquis, vous savez, un croquis de designer qui va dessiner une cafetière rapide comme ça et qui va ensuite la transformer, etc. Le premier jet de la cafetière dessinée, c'est l'aîné comme ça aussi.
Enki Bilal, donc cette exposition a lieu à la galerie Maton jusqu'au 3 novembre, je rappelle. Et aujourd'hui, dans quel état d'esprit vous êtes, Enki Bilal? Vous avez plus envie de revenir au dessin pur, ou à la bande dessinée, ou le cinéma, ou ce que vous faites de plus en plus, c'est-à-dire l'art contemporain, ou c'est ainsi qu'on l'appelle, c'est-à-dire des installations?
J'ai fait des installations, j'en ai fait deux, j'ai eu cette chance, c'est un privilège même d'en faire deux, aux deux dernières biennales de Venise. Donc j'ai fait ça, c'est passionnant, mais le dessin est à la base là encore. Donc sans le dessin, il n'y a rien, il n'y a pas d'installation. Moi, je fais rien sans le dessin. Donc le dessin reste. La bande dessinée, c'est une façon de raconter le monde, de se projeter dans le monde. Là, je travaille sur Bug, qui est une thématique très prémonitoire d'une certaine façon, mais aussi ce Bug qui est sorti en album l'année dernière, dont je suis en train de faire ce deuxième volet, va devenir aussi une série filmée. Donc je suis en train d'adapter pour France Télévisions avec Dan Franck, on est en train de travailler sur Bug pour une série filmée à la télévision. Et j'ai également un film en préparation, j'espère tourner au printemps prochain. Un film très ambitieux aussi, voilà, et... Donc tout ça, ça fait beaucoup de choses, mais c'est voilà tout.
Pour ces films, par exemple, le dessin, c'est le storyboard, hein, c'est pas ce qu'on verra.
Non, on verra pas du tout de dessin dans ces films-là, mais on verra les thématiques suprêmes, c'est-à-dire savoir l'avenir de l'humanité et l'avenir de notre planète. Donc c'est ça la thématique de mon film.
Vous êtes plutôt du genre à vouloir raconter des histoires, à faire passer des sensations, ou le bonheur de dessiner vous suffit, Enki Bilal?
Non, vraiment pas. Le bonheur de dessiner, je ne l'ai pas si ce dessin n'est pas mis au service d'une narration ou d'un projet. Dessiner pour le bonheur du dessin, non, j'ai plus ça. Je l'ai eu tout au début, peut-être. Mais non, pour moi, le dessin, il faut qu'il soit, il est orienté vers quelque chose. Voilà, il a un sens. Il faut qu'il m'amène quelque part. Sinon, le dessin, ça, non, il ne s'agit pas, voilà, de reproduire. Ça n'a pas d'intérêt de reproduire la réalité. Il faut l'imaginer, la réalité, il faut la transformer. Et le dessin, il est là pour ça aussi.
Tous ces personnages, vos personnages, Anki Bilal, qui nous ont accompagnés, qu'on a vus dans des univers de narration très différents, on les voit ici en train de naître dans vos crayonnés, dans vos esquisses. Est-ce qu'ils renvoient à des modèles? Est-ce que c'est où ils renvoient à une période, où ils renvoient à des gens que vous avez aimés autrefois, ou à des rêves qui vous poursuivent, parce que on les reconnaît très facilement, vos personnages?
Oui, bien sûr, mes personnages, là, ils sont pas toujours parfaitement réussis, parce que c'est un jet, c'est un premier jet, mais ils sont eux, et ensuite, évidemment, je les retravaille pour la finalisation, etc. Alors, ces personnages, ils sont nés, évidemment, qu'ils ont subi dans la traversée de ma vie, de mon temps, ils ont subi mes propres rencontres, expériences, bien sûr, ils se sont fabriqués de ça. Je les ai, quelque part, ils sont des... ce sont des accumulations, ce sont des formes de perfection qui me conviennent. C'est-à-dire que ce sont des, j'ai réussi à faire de mes hommes dessinés et de mes femmes dessinées quelque chose qui est une marque. Ce sont des marqueurs pour moi. Parfois on me dit, mais vos personnages se ressemblent, ce qui est faux. Mais effectivement, mon style les unifie. Mais par exemple, justement pour prendre au mot quelqu'un qui me disait ça, je dis, bah tiens, prochaine case, tu vas voir, je vais dessiner 4 ou 5 personnages tout d'un coup qui sont très différents. Et effectivement, alors du coup, je peux faire un personnage plus gros, un autre avec un gros nez, un autre machin, etc. Et c'est très amusant, ça, de faire des expressions, des gens très différents. Donc ça, je peux le faire, évidemment. Et lorsque j'ai produit ce dessin, comme ça, sous forme de crayonné, ce dessin, je l'ai rejeté immédiatement. Et bien, ce dessin, ça n'est pas moi. Je ne me reconnais pas là. Ces personnages, je ne les sens pas. Je ne veux pas les voir. J'ai pas envie de les redessiner. Terminé. Et je resserre ce sont mes codes graphiques. Alors voilà, ce sont un certain type de femmes, effectivement, un certain type d'hommes, qui peuvent être alors beaux, ou moins beaux, qui peuvent être inquiétants, qui peuvent être... voilà. Mais ils ont ma grammaire visuelle les a fabriqués, les a façonnés, et ma grammaire visuelle est faite de ma mémoire, de mes modèles, de peut-être de sensibilité esthétique à certains films, certaines plastiques, au travail sur le corps, le dessin du corps, le dessin de travail sur un ballet avec près de jocage, voilà, tout ça, ce sont des expériences qui ont fait que mes personnages sont maintenant des codes.
Et pourtant, vos personnages étaient mi-humains, mi-machines avant même qu'on parle de ce phénomène, avant même le transhumanisme.
J'ai dessiné il y a très longtemps dans des récits qu'on nommait de science-fiction, qui étaient effectivement des récits de science-fiction. J'ai dessiné, bien sûr, des hommes-machines, des machines. Mais ça, tout ça, ça fait partie d'une culture aussi. C'est ma culture qui est très liée, très tournée, effectivement, vers une certaine science-fiction. Alors, anglo-saxonne, oui, mais aussi de pays de l'Est, d'auteurs comme Asimov, comme... Zelazny qui est américain, mais enfin comme Stanislas Lem, etc., polonais, enfin, il y a plein d'auteurs qui ont des frères Stogatsky, etc., qui ont parlé du futur, de leurs angoisses du futur. Ceux de l'Est, d'ailleurs, ils utilisaient la fiction, la science-fiction pour faire de la critique sociale envers le régime. Enfin bon, tout ça, c'était des outils intellectuels qui faisaient qu'on parlait d'un monde nouveau, et ce monde nouveau proposait déjà des hommes-machines. Donc moi, je n'ai rien inventé. C'est aussi une transmission. Moi, je transmettais simplement ceux qui m'ont fasciné. Metropolis, le film de Fritz Lang. Voilà, nous avons une très belle femme-machine.
Pour terminer, Anki Bilal, est-ce que vous voyez l'évolution dans votre trait, dans vos dessins?
Je regarde La Croisière des Oubliés, ensuite je regarde Les Phalanges de l'Ordre Noir, ensuite je regarde La Force Immortelle, La Femme Piège, puis ensuite on passe à Froid Équateur. Ensuite, on passe à cette nouvelle technique, donc le sommeil du monstre. Bien sûr, moi, je vois énormément d'évolutions techniques.
Moi, je vois des variations techniques.
Est-ce que vous demanderiez à Hergé, est-ce que vous avez vu? Non, Hergé a fait toujours la même chose. Tardi, il dessine toujours la même chose. Sfar dessine toujours la même chose. Tout le monde dessine toujours la même chose, chacun avec son style. L'important, c'est que nous, on sente l'évolution. Si on la sent pas, c'est mort, on est mort. Et je pense que si la bande dessinée produit cette espèce de travers, je suis sûr que c'en est un, qu'il faut pas trop déstabiliser le lecteur. Le lecteur, il faut qu'il retrouve la nostalgie de ses premiers émois. Ben, moi, je pense que je suis l'un des... On est quelques-uns, bien sûr, à avoir une évolution, une progression. Alors, ça plaît parfois. Certains disent, c'est formidable, moi, je préfère de plus en plus ce que tu fais, j'aime beaucoup. D'autres disent, ah, moi, je préférais ce que tu faisais avant. Quand on me dit, j'adorais La Croisière des Oubliés, moi, ça me désespère. Je vais voir La Croisière des Oubliés, je me dis, c'est pas vrai, vous aimez ça? Ils me disent, ah oui, c'est super, bien dessiné. Je dis, bon, bah, au revoir, je vais essayer de me remettre le dessin, c'est pas possible. Mais c'est comme ça, mais ça plaisait à l'époque, ça a déjà plu, ça m'a fait, voilà, ça fait partie de mon parcours.
Merci Anne Kibilal.
Merci.